Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un crime non élucidé, celui de la postière de Montréal-la-Cluse, et un double mystère. En décembre 2008, Catherine Bureau, 41 ans, est tuée à coups de couteau dans la petite poste de ce village de Lain. Très vite, un marginal, toxicomane et alcoolique, qui habite en face de l'agence, devient le suspect numéro 1. Il s'appelle Gérald Thomassin. Mais ce n'est pas un paumé comme un autre. C'est un acteur de cinéma, un vrai, mais pas un mythomane. D'ailleurs, les cinéphiles connaissent son nom. Il a obtenu en 91 le César du meilleur espoir masculin pour un film de Jacques Doyon, un film au titre qui pourrait résonner tristement avec cette affaire, Le Petit Criminel. Aucun élément concret ne pèse contre lui. Mais pendant 10 ans, les enquêteurs ne lâchent pas la piste de Thomassin. Il faut dire que le principal intéressé attire les soupçons sur lui avec des comportements et des déclarations troublantes. Les rôles qu'il a incarnés au cinéma, souvent des délinquants, facilement violents, entretiennent aussi une certaine ambiguïté dans l'esprit des enquêteurs, alors que cela n'a rien à voir. Mais tout cela, en fait, fait sur le papier un coupable idéal. En tout cas, l'affaire de Montréal-la-Cluse devait être facile à résoudre. Or, 13 ans après les faits, le mystère reste entier. Et un deuxième mystère s'est ajouté au premier. Depuis août 2019, Gérald Thomassin est porté disparu. Notre invitée aujourd'hui, Florence Aubenas, journaliste, grand reporter au journal Le Monde, autrice de L'Inconnu de la Poste, paru aux éditions de L'Olivier, une enquête au long cours sur ce fait divers, livre dont nous nous sommes inspirés pour cette émission. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Héloïse Rambert, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Décembre 2008, 9h05 du matin. Nous sommes à Montréal-la-Cluse, une bourgade de 3500 âmes dans le département de l'Ain, coincée entre Bourg-en-Bresse et les forêts de sapins jurassiennes sur une rive du lac de Nantua. Ce matin-là, comme tous les autres, la petite poste est ouverte depuis une bonne demi-heure. Le premier client à pousser la porte est ébéniste. Il veut récupérer un paquet, le cadeau de Noël de sa mère. Mais le bureau de poste est vide, silencieux, pas habituel. Une deuxième cliente entre alors à son tour. C'est la secrétaire médicale d'à côté. Elle salue l'ébéniste, visage familier à Montréal-la-Cluse. Les deux lèvent les yeux sur la pendule. 9h07. Alors ils toussotent poliment, comme on fait tous, pour se signaler sans trop vouloir déranger. Puis ils commencent à parler de plus en plus fort, histoire d'attirer l'attention. Catherine Burgot, la postière, est sans doute dans la petite pièce du fond, aménagée en cuisine. La porte entrebâillée laisse échapper un filet de lumière. Mais rien ne bouge. Non. Il y a juste le chien de la postière, un bichon blanc, qui s'agite tranquillement. Il y a quelqu'un, se risque l'ébéniste ? Silence encore. Tout de même, il finit par s'approcher et il pousse la porte. Il découvre alors une scène d'horreur. Catherine Burgot est allongée sur le dos, les jambes désarticulées, les lunettes en travers du visage, lardées de coups de couteau. Elle gît dans une mare de sang. Sur la table, traîne encore sa tasse de café, son paquet de cigarettes, ses mots croisés. Motif apparent du crime, la recette de l'agence, le coffre en effet a été dévalisé. Quelque chose comme 2600 euros, un butin dérisoire pour une telle sauvagerie. Le maire, Gilles Morosi, réagit devant les caméras de la télé.
Ça m'attriste profondément de voir que des choses pareilles puissent se faire. Compte tenu, si c'est à cause de l'argent, du peu d'argent qu'il y avait dans l'établissement. C'est quand même horrible d'enlever la vie à cette fille pour de l'argent et si peu d'argent. Cette fille, elle est née à Montréal-la-Cluse. Elle a toujours fait partie de la vie communale. Une fille très intéressante, très assidue à son travail, très compétente. C'est pour ça qu'on est tous atterrés. Je pense que la population aussi a subi un choc et la population s'interroge.
C'est un peu notre 11 septembre à nous, souffle l'un de ses adjoints. Parce qu'ici, tout le monde connaît Catherine. Oui, elle est une enfant du pays, et elle est la fille de Raymond Burgot, le secrétaire de mairie, un notable de Montréal-la-Cluse. Au moment du meurtre, elle a 41 ans, et elle tient depuis une quinzaine d'années cette antenne de La Poste dans le vieux Montréal-la-Cluse, qui fait aussi boutique SNCF. L'agence ne fait guère plus de 25 mètres carrés, et dans le coin, on la surnomme la poste de poupée. Catherine Burgot, arrive tous les jours à 8h et gare sa Mini Cooper juste en face de l'agence, devant la maison de son père. Elle est connue pour sa sympathie, son dévouement. Elle a toujours un mot gentil pour chacun, elle est toujours prête à rendre service. Elle se rend souvent chez les personnes âgées pour leur apporter de l'argent liquide, par exemple. C'est aussi une belle femme, du genre qu'on remarque. On lui trouve de faux airs de Sophie Marceau. D'ailleurs, un employé de la Grande Poste, près du lac, plaisante souvent avec ça. La moitié des gens qui viennent à la petite agence viennent en fait pour Catherine Bureau. La jeune femme a fait de sa poste son petit royaume. Le matin, entre 8 et 9, sa bande de copines passe boire un café dans la petite salle du fond. Les rires fusent, les filles se racontent petites et grandes histoires. Elles sont toutes dans leur quarantaine et se posent les mêmes questions. Divorcer, ne pas divorcer. Catherine, elle, a sauté le pas. Elle a deux enfants, un garçon de 19 ans et une petite fille de 9 ans. Elle s'est récemment séparée de leur père. La procédure de divorce est en cours. Elle a rencontré un nouveau compagnon. Elle est enceinte de 5 mois. Et sa vie n'est pas forcément rose. Des hauts, des bas, voire très bas. Elle a déjà essayé de se suicider. Et ce n'est un secret pour personne. Alors, quand la nouvelle de sa mort se répand dans Montréal-Lacluse, certains de ses habitants se disent que ça y est, elle a réussi, elle a mis fin à ses jours. Mais très vite, il est évident qu'il ne s'agit pas du tout de cela. L'effroi est d'autant plus grand que ce matin du 19 décembre, ce ne sont pas un, mais deux meurtres qui frappent la région. Oui, une autre femme a été tuée en Haute-Savoie, département voisin.
Les gendarmes s'interrogent. Ce meurtre ressemble à une autre affaire, survenue presque au même moment, à 60 km de là, à la frontière suisse. Dans cette agence immobilière de Saint-Julien en Genevois, c'est le corps d'une Suissesse de 39 ans qui a été retrouvé. Assassinée à l'arme blanche, elle aussi, même mobile apparent, son sac à main a été dérobé. Des prélèvements d'ADN ont été effectués sur les deux scènes de crime. La justice s'interroge sur le lien entre les deux affaires.
Elle, s'il s'agissait d'un serial killer qui s'en prend une arme blanche aux femmes seules dans les boutiques. L'hypothèse est rapidement écartée. Les deux meurtres ont eu lieu dans le même créneau horaire. Impossible que le tueur ait pu relier les deux villages dans un temps aussi court. Les gendarmes nantois se concentrent alors sur le crime de la postière. À Montréal-Lacluse, les commerces et administrations ferment brutalement. Un couvre-feu se met spontanément en place. Alors, qui a bien pu s'en prendre à Catherine Burgot? Malheureusement, pour les gendarmes, dans la poste, il n'y a pas de caméra de surveillance. Alors, les auditions des proches de la victime commencent. Le père est pleuré, les enfants, le compagnon et bien sûr l'ex. Car c'est vers lui que se tournent d'abord les soupçons. La séparation était douloureuse. Est-ce qu'il aurait tué sa femme enceinte d'un autre, par jalousie? Ce n'est pas ce que dit la science. Des empreintes génétiques sont relevées sur la scène du crime. Une main laissait sa trace sur le monnayeur où l'argent a été volé. C'est celle d'un homme, un chromosome Y a pu être isolé. De l'ADN est également retrouvé sur un sac de sport abandonné sur la table. Et les experts sont formels. Il s'agit du même ADN. Et ce n'est pas celui du mari de Catherine Burgot. Les perquisitions à son domicile n'ont rien donné. Et puis, de toute façon, il n'a pas bougé de chez lui le matin du meurtre. Il est donc rapidement mis hors de cause. Les enquêteurs ne sont pas spécialement inquiets. Après tout, le meurtre a eu lieu le matin, à l'heure où les parents vont au travail et les enfants à l'école. Des centaines de personnes sont passées par là. L'agence n'a qu'une porte, par laquelle le tueur est forcément entré et sorti, et couvert de sang, qui plus est. Dans le vieux village, les rues sont très étroites, et 24 fenêtres donnent directement sur la poste. Quelqu'un aura forcément noté quelque chose. Et en effet, on se presse pour rapporter aux gendarmes ce qu'on a vu. Un 4x4, une Mercedes immatriculée dans le Loiret, un vendeur de calendriers pour SDF, une 607 grise avec un maghrébin au volant, les témoignages partent dans tous les sens. Et puis il y a ceux qui n'ont rien vu, qui ne se souviennent de rien. Bref, l'enquête n'avance pas. Jusqu'au 16 janvier 2009, presque un mois après le meurtre, quand l'affaire connaît un tournant, comme le rapporte un journaliste du Progrès.
Il y a deux femmes qui rentrent dans le cimetière de Montréal-Lacluse et qui voient un homme qui est assis sur le bord de la tombe de Catherine. Et il a une bière à la main, il paraît manifestement bien dans son état normal. Il mime plus ou moins la scène. L'assassin, il a dû la prendre comme ça par le cou, par derrière. Elle avait dû, peut-être qu'elle avait trop parlé, alors il l'a poignardée, il lui a donné des coups par derrière comme ça.
Cet hurluberlu, pas franchement inquiétant, mais pas franchement rassurant non plus, est connu des habitants de Montréal-la-Cluse. Cela fait un peu plus d'un an qu'il zone au village avec deux ou trois copains aussi paumés que lui. Son nom, Gérald Thomassin. Quand il débarque à l'été 2007, il pousse la porte de la grande poste de Montréal-la-Cluse. Il veut s'établir ici et ouvrir un livret A. La conseillère le jauge, bon, poli, mais un marginal à coup sûr. Le genre de client pénible qui vient sans arrêt retirer 3 sous. Mais à la case profession, la banquière le voit écrire acteur. Allons bon, encore un qui délire, pense-t-elle. Mais non, sitôt son client parti, elle passe son nom à la moulinette d'un moteur de recherche internet et elle n'en revient pas. Non seulement Gérald Thomassin est un acteur, mais il a même reçu un César au début des années 90. Cela dit, les gens du coin l'identifient davantage comme toxicomane et alcoolique, comme vedette du cinéma. Pour les braves gens, cet énergumène n'a pas le profil d'un acteur. Un acteur, ça fait rêver, pas lui. Âgé de 34 ans au moment du meurtre, Thomassin est un enfant d'Adas. Petit, sa mère, alcoolique, ne peut pas s'occuper de lui. Son enfance est difficile, très difficile. Avec son frère, plus jeune que lui d'un an, il connaît les familles d'accueil, les foyers, les maltraitances. Mais en 89, la vie des jeunes adolescents prend un virage inespéré. Le réalisateur Jacques Doyon prépare un film qui va s'appeler Le Petit Criminel. L'histoire d'un gamin de 14 ans, Marc, qui attaque un magasin, prend un policier en otage et le force à le conduire dans une ville voisine où il veut retrouver sa sœur. C'est l'époque du cinéma vérité et Doyon veut coller au réel. Donc, pas question de caster un petit bourgeois parisien pour incarner un prolo. Non, il cherche son Marc dans tous les foyers d'Île-de-France. Et c'est donc Gérald Thomassin qui est retenu pour le rôle, alors qu'il ne s'était rendu au casting que pour accompagner un ami. Jacques Doyon est convaincu par l'adolescent, mais il a aussi à cœur de le protéger, comme il le raconte en 1990 au micro de France Culture.
Je n'avais en fait qu'une peur, c'était que, comme il était venu un petit peu par hasard, qu'il ne souhaitait pas plus que ça faire un film, que ça l'effrayait terriblement. J'avais simplement peur que qu'il ne tienne pas la distance et que la pression du début du tournage soit trop violente pour lui. Donc voilà, c'était ça le problème. Mais sinon, je voyais là tout le côté têtu, buté, charmant, enfin, différents visages de ce garçon. Tous ces visages-là me plaisaient beaucoup. Et je pouvais tirer parti de tous ces visages-là, il me semble. Donc j'étais ravi quand j'ai vu les premières images.
La mère de Gérald Thomassin est aux anges. Les fées du cinéma se sont penchées sur son fils. Il est sauvé. Ça démarre d'ailleurs comme un conte de fées, car dès son premier film, Gérald est adoubé par toute une profession. En 1991, il reçoit le César du meilleur espoir masculin.
Le César est attribué à Gérald Thomassin dans Le Petit Criminel.
Gérald ne s'était pas présenté pour le casting du Petit Criminel. Doyon a fini par le rencontrer et la rencontre fut, paraît-il, extraordinaire et déterminante. N'a pas l'intention de continuer à faire du cinéma. On verra bien.
Merci tout le monde qui est présent ici. Je remercie Jacques Doyon. C'est que Pierre Amzalak et son assistant Marc, je ne sais plus comment il s'appelle. Puis c'est tout, je ne sais pas quoi dire. Voilà.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il est formidable dans Le Petit Criminel.
Sa trajectoire cinématographique semble bien partie et sa rédemption sociale assurée. Il se construit une petite carrière. D'année en année, Thomassin joue régulièrement 21 films entre 91 et 2008, des seconds rôles mais tout de même. Et il a comme agent Dominique Besnéard, excusez du peu. Sur les plateaux, il est agréable, professionnel. Jamais il ne plante un tournage, comme on dit dans le milieu. Mais l'acteur est plombé par ses addictions. Entre les projets de cinéma, il disparaît, mène une vie de marginal. un pied sur les tapis rouges, l'autre dans la rue, en somme. Il ne cherche pas à décrocher des rôles. Et son agence met un mois ou deux à lui mettre la main dessus quand on lui en propose un. Ça lui en fait rater quelques-uns, bien sûr, et des gros. On dirait qu'il s'en fiche. En 2007, il traverse un énième passage à vide. Alors, l'un de ses vieux copains de la DAS a une idée. Son frère habite à Montréal-la-Cluse. Pourquoi n'irait-il pas là-bas quelque temps, histoire de se mettre au vert? Et c'est comme ça que l'acteur atterrit dans là. Il emménage dans une sorte de cave semi-enterrée, transformée en studio, juste éclairée par un soupirail. L'endroit est surnommé la grotte par ses copains de galère. Et cette grotte est juste en face de la poste, à quelques mètres. Alors, après le meurtre de la postière, son profil et son comportement étrange font de Thomasin un coupable idéal. Et les braves gens ne se gênent pas. Et comme Thomasin se comporte d'une manière déroutante, voilà de l'eau à leur moulin. Le père de la victime, Raymond Burgot, se souvient, en 2013, 5 ans après les faits.
Je l'avais trouvé à genoux sur la tombe toute fraîche de ma fille qui venait d'être enterrée la veille. Il a recommencé 2 jours après, c'est mon gendre là qui l'a surpris. Il était à genoux devant l'entrée du bureau de poste où a eu lieu le crime. Il avait une rose à la main et il pleurait également.
Le 4 mars 2009, Gérald Thomasin est placé en garde à vue. Il nie avoir tué Catherine Burgot et aucune preuve ne permet de le confondre. Son ADN ne correspond pas. Rien de suspect n'a été noté chez lui. Il repart libre. Pour le moment.
Je suis né en novembre 74 à Pantin. Et j'ai toujours su, c'est mon pouce accusé de meurtre et mis en examen. J'entends quelqu'un qui tousse la postière, je n'y suis pour rien. Elle aussi était gentille et douce. Je vous aime bien, mais je vous déteste tous. Mon nom ne vous dit peut-être rien. Vous l'avez déjà eu sur la bouche, mon nom est Gérald Thomasin, celui qu'il ne fallait pas que l'on touche, drogué, délinquant et comédien, je n'aurais jamais fait de mal à une mouche. Dans la rue, j'étais devenu quelqu'un. Les autres, je les connaissais tous, installés à Montréal, la Cluse, dans l'Ain, un village tout au fond de la Combrousse. On était souvent une canette à la main. La vie est dingue quand on l'éclabousse. Je vous aime bien, mais je vous déteste tous. Je ne suis pas un assassin. Désormais vous le savez tous, mon nom est Gérald Thomasin, celui qu'il ne fallait pas que l'on touche, envolé comme un bandit, comme un saint, que l'on vénère, que l'on repousse.
Aujourd'hui, l'affaire Thomasin.
France Inter, affaire sensible.
Gérald Thomasin est libre, mais les soupçons continuent de peser sur lui à Montréal-la-Cluse. La famille de Catherine Burgot est persuadée de sa culpabilité. Il faut dire qu'il continue à se faire remarquer. Fin juillet 2009, Raymond Burgot, le père de la victime, le croise. Thomasin lui affirme alors spontanément qu'il est innocent. Mais encore une fois, il s'identifie de manière troublante à l'auteur du crime et à son mode opératoire. Dans une lettre envoyée aux gendarmes, Raymond Burgot écrit. Il a indiqué que s'il avait été l'auteur du crime, il s'y serait pris autrement. Qu'il aurait mis une cagoule, des gants et aurait dérobé l'argent sans toucher à ma fille. Il m'a montré un couteau aux dimensions inquiétantes. Le même jour, l'ancien époux de la postière menace et tabasse Gérald Thomassin. Tu es peut-être comédien, mais ton cinéma ça marche pas avec moi. Lui aurait-il lancé. Tu cherches une vie tranquille? Alors déménage. Parce que je te tuerais si tu n'arrêtes pas de nous emmerder. C'en est trop pour l'acteur, qui craint pour sa sécurité. Il porte plainte, prévient les gendarmes, et il quitte Montréal-Lacluse, direction Rochefort, où il espère renouer avec Corinne, son ex-fiancée. Mais ici, comme à Montréal-Lacluse, Gérald Thomassin reste obnubilé par le crime. Il en parle à tout le monde, partout, tout le temps. Corinne le trouve impossible à vivre, violent. Et une fois encore, il finit à la rue. En 2012, il obtient un logement social. Il est alors fragile, mais de bonne volonté, à en croire la vice-présidente du Centre communal d'action sociale de Rochefort.
Depuis qu'il est arrivé, M. Thomassin a toujours été très coopératif et très participatif. Donc petit à petit, c'est vrai, il a investi le logement. Bon, et comme c'était quelqu'un qui avait des difficultés à résoudre et à planir, bon, bien sûr, il y avait certaines contraintes par rapport à cet accompagnement social, mais il a toujours répondu présent. Il s'est toujours efforcé de suivre les conseils et préconisations données par le travailleur social.
Suivi par les services sociaux, Gérald Thomassin semble retrouver un semblant de stabilité. Il est même question d'un nouveau projet de film. Mais à l'autre bout de la France, à Montréal-Lacluse, les gendarmes n'ont pas abandonné sa piste. Deux de ses anciens comparses, avec qui il passait son temps au village, sont interrogés. Et oui, c'est vrai, ils ne l'ont pas dit jusque-là, mais l'acteur en manque d'argent avait évoqué l'idée de faire une connerie. Faire une connerie. Il n'en faut pas plus pour réveiller l'enquête. Thomassin reçoit donc une convocation des gendarmes de la section de recherche de Lyon pour le 26 juin 2013. Il va de nouveau être entendu pour le meurtre de Catherine. Deux jours avant son audition, il craque. Il appelle d'abord le major de gendarmerie sur son portable pour clamer son innocence. Puis, plus tard, dans la nuit, il appelle son frère, qui raconte en 2022.
Il m'appelle le soir, il me dit « Allô, Jérôme, c'est moi qui l'ai tué ». Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas encore raconter? Je veux dire, c'est moi qui l'ai tué, comme ça, au moins quand je serai en prison, je vais savoir qui l'a tué.
Au bout du fil, Gérald est particulièrement confus. Et il continue. Si, c'est moi qui l'ai tué, t'as pas compris? J'ai traversé en face de chez moi, j'ai pris 3000 euros, je l'ai tué, je suis rentré chez moi, j'ai regardé Magnum à la télé. Mon esprit était dans la poste. Non, mon esprit était chez moi et mon corps était dans la poste, je veux dire. Enfin, c'est moi qui l'ai fait. Jérôme Thomassin ne croit pas aux élucubrations de son frère et lui conseille d'aller se coucher. Le lendemain, Gérald le rappelle pour s'expliquer.
Gérald, je lui dis, mais qu'est-ce que tu avais bu hier? Est-ce que tu t'étais drogué? T'avais bu? Qu'est-ce que t'avais bu? Ah, il me dit, Jérôme, j'en ai tellement marre. Il me fait comme ça, j'ai pris de l'alcool à 70 avec du Lexomil, puis voilà, le mélange a été fait, quoi.
Ce que Thomassin ne sait pas, c'est que ses proches et lui sont placés sur écoute depuis des mois. Alors quand il se retrouve devant les enquêteurs, il est cuisiné pendant des heures et confronté plusieurs fois ce qui ressemble à des aveux. Pourquoi a-t-il tué Catherine Burgot? Pour l'argent? Gérald Thomassin nie. Non, s'il a dit tout ça, c'est qu'il était à bout et que ça n'allait pas bien dans sa tête. Mais ce n'est pas lui qui a fait le coup. Les gendarmes tiennent les bizarreries de Thomassin comme des indices. Et puis il y a cette filmographie qui se retourne contre le petit criminel de Doyon. Un enquêteur remarque son personnage dans son dernier film, Le Premier Venu, de Doyon toujours. Lui aussi se livre à une scène tragique où il agresse un homme avec un couteau. Mélange en fiction et réalité, l'officier de PJ fait un rapprochement avec le meurtre de Catherine Burgot. Et puis Thomassin est acteur, c'est son métier d'être à la fois lui-même et un autre. Il a très bien pu tenir le rôle du meurtrier, puis quitter ce rôle et se persuader que ce n'est pas lui qui a agi. La police a parfois plus d'imagination que le cinéaste ou les romanciers. Le 29 juin 2013, Gérald Thomassin est interpellé, mis en examen pour vol avec arme et meurtre sur personne chargée d'une mission de service public. Peine encourue, la perpétuité. Et puis la précime, l'incompétence et l'inconscience en bandoulière. Une erreur factuelle se glisse entre les lignes de certains quotidiens et hebdomadaires qui rapportaient la nouvelle. L'ADN de Thomassin match avec celui retrouvé sur la scène de crime. ce qui est faux. Il n'existe aucune preuve génétique contre lui, pas plus qu'il y a 5 ans, quand il avait été relâché, faute de preuves. Et Thomasin passe 2 ans en prison. 2 ans durant lesquels il ne cesse de répéter qu'il est innocent. Désormais, il est représenté par le cabinet d'Éric Dupond-Moretti. Béatrice Dalle, ex-collègue des plateaux de cinéma, a fait jouer ses relations. La suite est une succession de rebondissements procéduriers. En mai 2015, il est remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence et bracelet électronique, puis renvoyé devant la cour d'assises de Bourg-en-Bresse. Mais alors que la tenue du procès semble un détail de calendrier, la justice le reporte. Elle ordonne un supplément d'information avant de trancher sur un éventuel renvoi de l'accusé devant les assises. Parce qu'elle veut notamment passer au peigne fin l'ensemble des écoutes téléphoniques. Un coup dur pour Raymond Burgo, pour qui Thomasin ne peut pas avoir tenu les propos qu'il a tenus sans fondement.
C'est pas moi qui invente les mots, c'est lui. C'est moi qui l'ai tué, et je l'ai tué. Ça arrive à tout le monde d'être un petit peu alcoolisé parfois, lors d'une fête, etc. Est-ce que pour autant vous allez décrocher le téléphone en disant la voisine qui est morte, c'est moi qui l'ai tué, hein? Quand même. Et on a beau dire qu'on est complètement bourré quand on a dit ça. Vous connaissez la citation latine, in vino veritas. Du vin sort la vérité.
En mars 2016, contre toute attente, le procès est annulé par la chambre d'instruction pour manque de preuves. Et, fait encore plus inattendu, le tribunal de Bourg-en-Bresse est dessaisi au profit de 2 juges d'instruction lyonnais chargés de mener une enquête complémentaire. En clair, on reprend tout à 0. Le 3 juin, Gérald Thomasin, toujours mis en examen et remis en liberté, car en France, on ne peut pas maintenir plus de 3 ans une personne en détention provisoire. D'autant que, en 2017, soit 9 ans après la mort de Catherine, l'affaire connaît un coup de théâtre. Tout commence par une banale histoire d'usage frauduleux de cartes bancaires. Une jeune femme dépose plainte, un garçon qu'elle a rencontré sur Internet lui a subtilisé sa carte bancaire et lui a volé 600 euros. Pas le casse du siècle. Mais les gendarmes prélèvent tout de même son ADN, la routine. Et là, c'est la stupéfaction. Une fois rentrée dans le fichier national des empreintes génétiques, la trace correspond à celle retrouvée à 2 endroits sur la scène de crime de Montréal-Lacluse. Une nouvelle enquête commence alors, dans la plus grande discrétion, sur un dénommé Mamadou Diallo. Presque 6 ans d'investigation, des centaines de personnes entendues, une vallée passée au crible, jamais son nom n'était sorti. Au moment des faits, Mamadou a 19 ans. Il est lycéen, vit chez sa mère à 5 km de Montréal-Lacluse et travaille comme stagiaire préparateur de commandes dans une entreprise d'un village voisin. Quand les gendarmes l'interpellent en mai 2018, il est ambulancier en CDI. En garde à vue, Mamadou Diallo commence par nier avoir mis ne serait-ce qu'un pied à la petite agence postale. Et puis il parle. Et il explique pourquoi il s'est tu jusque-là, comme le rapporte son avocate Sylvie Noajovic.
Il s'est rendu dans l'agence postale parce qu'il devait acheter des billets SNCF et il ne trouvait personne à l'accueil. Il s'est rendu dans l'arrière-salle et a découvert avec effroi cette horrible scène. Il réflexe, alors qu'il n'y a pas besoin d'argent, de prendre une liasse de billets qu'il a vu traîner près d'elle. Il s'est dit que c'était la seule famille guinéenne du village et il s'est dit, on va tout de suite m'accuser, on va tout de suite dire que c'est moi, alors que je n'ai pas commis ce crime, je n'ai rien fait. Donc il n'a pas osé effectivement se dénoncer, il a eu peur.
Le jeune ambulancier est mis en examen pour meurtre et viol avec arme. Mais Gérald Thomasin n'est pas disculpé pour autant. Les 2 suspects sont donc mis en examen pour les mêmes faits. Pourtant, il ne semble y avoir aucun lien entre eux. Ils ont 15 ans d'écart, évoluent dans des mondes très différents. Ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais croisés. Alors, qui sera renvoyé devant une cour d'assises? L'instruction touche à sa fin. Et les 2 juges lyonnais organisent une dernière confrontation entre les suspects. La date est fixée au 29 août 2019. À en croire ses proches, Gérald Thomasin est confiant. Il est même impatient, oui. Il espère mettre un terme à l'affaire de la Poste et surtout éviter un procès. Le jour du rendez-vous à Lyon, Camille Radeau, son avocate du cabinet Dupond-Moretti, tourne en rond devant le bureau du juge en regardant sa montre. Car son client ne se présente pas. Il a pourtant bien pris le train. Il a même été verbalisé entre La Rochelle et Nantes pour non-présentation de billets. À Nantes, des portiques l'empêchent de prendre sa correspondance pour Lyon. Une femme le reconnaît et le voit sortir de la gare. Son téléphone le géolocalise une dernière fois en banlieue de Nantes, une ville où il ne connaît personne et où il n'a aucune raison de s'attarder. Depuis ce jour, Gérald Thomassin n'est jamais réapparu. Fin janvier 2020, les juges prononcent un non-lieu pour Thomassin et maintiennent l'accusation contre Diallo. En avril 2022, l'ambulancier est acquitté au bénéfice du doute. Le parquet avait requis 30 ans de prison. Il est en revanche condamné à 2 ans pour le vol d'une liasse de billets. La peine étant déjà couverte par sa détention provisoire, à l'énoncé du verdict, Mamadou Diallo pousse un soupir de soulagement, embrasse les mains de son avocate et s'adresse aux caméras, serein et souriant.
C'est un soulagement. J'ai quand même de la peine pour la famille de la victime. Faut pas oublier qu'il y a quand même une femme qui est morte sauvagement. Mais depuis le début, je clamais mon innocence. Et aujourd'hui, la justice m'a entendu, donc je les remercie pour ça. Et je vais essayer de me reconstruire petit à petit, et voilà.
Une fois de plus, la famille de Catherine Burgot reste sans réponse. Quelques semaines après le verdict de la cour d'assises, Raymond, son père, qui disait ne vivre que pour un procès, décède à l'âge de 81 ans sans avoir pu connaître la vérité. Quant à Gérald Thomassin, on ne sait toujours pas où il est, s'il est en vie ou non. Et on ne sait toujours pas qui a tué Catherine Burgot. Double mystère.
Trier les pages de mon passé.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Gérald Thomassin. Notre invité, Florence Aubenas. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, grand reporter au journal Le Monde, autrice de L'Inconnu de la Poste. Ce livre paru aux éditions de L'Olivier. C'est une enquête au long cours sur cette histoire. Livre dont nous nous sommes largement inspirés pour cette émission parce que je pense qu'il y a tout dans ce livre. Il y a aussi votre œil. Déjà, quand avez-vous commencé à vous intéresser à cette affaire et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce fait divers?
Alors, la première chose est assez simple. C'est une amie de Gérald Thomassin, qui l'avait justement casté pour Le Petit Criminel, ce film pour lequel il avait eu son César, m'appelle et dit, voilà, j'ai travaillé avec Gérald Thomassin au moment où il était très jeune. Et là, il est mis en examen pour une affaire criminelle terrible. Et je suis persuadée qu'il est innocent. Alors, vous connaissez certainement le mot terrible de Maître Floriot, qui était un des grands avocats du XXe siècle, qui est de dire, en termes d'erreur judiciaire, je ne connais que les acquittements. Et donc, des personnes qui nous appellent dans un « je suis innocent, sauvez-moi », il y en a beaucoup, et c'est parfois vrai, et parfois non. Et donc, je ne savais pas quoi en penser. Et donc, on était au mois d'août, j'avais pas grand-chose à faire, pour ne rien vous cacher. Quand on est de permanence au mois d'août, dans un quotidien, c'est pas le moment le plus trépidant, forcément. Mmh. Et donc, je suis partie à Montréal-Lacluse, voir ce qu'il en était. Et à l'époque, Gérald Thomassin était emprisonné, était incarcéré. D'accord. Donc, c'était ce moment-là où il y avait eu ces faux aveux au téléphone. Et donc, je ne l'ai pas rencontré au début. Et donc, j'ai fait toute l'enquête à Montréal-Lacluse. Et c'était très intéressant parce que ce que j'avais trouvé très fort, et c'est pour ça que je m'y suis intéressée ensuite et au long cours, c'était le choc de ces deux mondes. C'est-à-dire que un jeune acteur qui boit trop de canettes, qui a un grand chien, qui fait du bruit sur un banc public, à Paris, j'ose pas dire que ça ne choque pas, mais on connaît cette image-là. À Montréal-Lacluse, non.
Eh oui.
Voilà. Et donc, il y avait le choc de ce monde ouvrier, paysan, resté dans une forme de ruralité, à un endroit où, pour vous dire, il y a en effet pas de caméra de surveillance à la poste. C'est vous dire si la tranquillité règne. On ne voit pas pourquoi on en aurait mis.
Oui.
Voilà.
Ce sont ceux que j'appelais les braves gens. Il n'y a rien de péjoratif. Mais ça peut renvoyer à des pressions sociales qui peuvent déboucher sur des affaires terribles. Je pense à l'affaire Richard Roman, cet homme qui venait de Paris, qui est venu se retirer dans un village des Alpes de Haute-Provence et il y a eu un crime terrible parce qu'il ne vivait pas comme les autres. Il était accusé, à tort, il est allé en prison, il s'en est permis, il s'est suicidé. Cette pression sociale d'un village, ça a du poids sur une enquête. Et ça a eu du poids dans cette affaire-là.
Oui, c'est vrai, et c'est justement cette confrontation que je trouvais intéressante, c'est-à-dire Catherine Burgot, qui était donc une jeune femme très appréciée dans le village, qui était la fille d'un notable, donc son père Raymond Burgot, qu'on a entendu plusieurs fois, et était secrétaire de mairie, donc c'est un rôle important, c'est la personne qui va vous donner les permis de construire, enfin on est là dans toute dans cette organisation d'une bourgade française, et surgit ce Thomassin. Et c'est vrai que l'un des voisins, donc tous ne sont pas comme ça, mais l'un en tout cas dit, pour nommer l'immeuble dans lequel vit Thomassin, il dit, voilà, c'est l'immeuble des cas sociaux, c'est l'immeuble des catastrophes.
Ouais.
Donc c'était en effet un habitat social. Donc c'est sûr qu'on se trouve dans ce petit village, dans cette petite poste, où... Si vous voulez, pour vous dire, cette poste, le grand chef des services postaux de la région ne savait pas qu'elle existait tellement elle est petite. Donc c'était vraiment un endroit très confidentiel, sans caméra de surveillance, avec juste deux employés. Enfin, c'est
vraiment une réunion de copines.
Voilà, ouais. C'est vraiment la petite poste de village. Et donc pour savoir qu'il y a quelqu'un de seul, pour savoir qu'il n'y a pas de caméra de surveillance, pour savoir qu'il y a un peu d'argent qui est là dans un coffre, etc. Il faut être du village.
Ouais.
Et donc c'est ça la première chose qui se passe, la première dénonciation qui se passe. C'est-à-dire c'est l'un d'entre nous. L'un d'entre nous seul pouvait savoir que là il y a cette situation-là.
Mais justement, est-ce que c'est pas rassurant pour les gens de la bourgade de savoir que c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici, ce type-là, qui vient... comme ça, le crime n'est pas endogène.
Sans doute. En tout cas, il y a cette impression, c'est là entre nous. Et donc tout le monde, on se regarde les uns les autres. Hein. Moi, quand j'y suis allée, même des années plus tard, où Thomasin était déjà incarcéré, on continue à se regarder un petit peu comme ça de travers. Ceux qui pensaient que c'était pas lui disaient, mais alors c'est qui ? Donc il y avait cette ambiance un peu comme ça. Et donc les regards se portent tout naturellement, et vous avez raison, vers celui qui ne ressemble pas aux autres et qui n'est pas l'enfant du pays.
Alors justement, celui qui ne ressemble pas aux autres, ben vous le connaissez, parce que vous l'avez rencontré plusieurs fois, je crois que sur des bancs publics, vous parliez, il vous a montré les films dans lesquels il jouait, je crois aussi.
Oui, c'est
ce que vous racontez dans votre livre.
Oui, c'est vrai, c'est que je ne voulais faire le livre qu'en ayant accès au village, mais aussi à Gérald Thomasin. Donc quand il a accepté que je fasse ce livre, et que les gens du village, Raymond Burgot en particulier, a accepté de me recevoir, je me suis lancée dans cette aventure d'en écrire un livre. Et donc Gérald, j'ai attendu à sa sortie de prison. Donc j'ai rencontré, lui était ravi, j'ai rencontré dans un hôpital psychiatrique, il sort de prison, et ça l'avait un peu, lui avait un peu mis la tête à l'envers.
Oui, à toi.
Ce que je comprends. Et donc il criait son innocence, il sort, il met à l'hôpital psychiatrique. Et lui, il a été élevé en institution. Et donc il y avait une familiarité avec les institutions. Il disait, alors je vais voir ce qu'on mange à la cantine. Donc il y avait cet endroit où tout le monde aurait été assez gêné d'être rencontré. Lui en était ravi. Et donc on s'est assis sur un banc public de cet hôpital psychiatrique. Et il m'a montré sur le téléphone portable, en effet, ses films. Il m'a raconté ses Césars. Enfin, donc oui, on a entamé une forme de je dirais pas d'amitié, mais en tout cas, on s'appelait.
De proximité.
Voilà, c'est vrai, bien sûr.
Et qu'est-ce qu'il en ressort de la personnalité de ce garçon ?
C'est Gérald Thomasin, c'est quelqu'un de vraiment particulier. C'est-à-dire qu'il est tout à fait dans ce qu'il fait. Quand il joue au cinéma, il est absolument au cinéma, et c'est ce que disent ceux qui ont tourné avec lui. C'est-à-dire qu'ils disent c'est quelqu'un. Pourquoi est-ce que on va chercher quelqu'un d'errant en disant tiens, c'est absolument lui qu'il me faut pour faire tel rôle dans tel film? C'est que il a quelque chose de très précieux. C'est-à-dire que il rentre dans le rôle qu'on lui assigne, et il devient cette personne. Et donc les réalisateurs vraiment se l'arrachaient, et il y a beaucoup de rôles qu'on lui a demandé de faire qu'il a refusé par laisser aller, je dirais. Et donc il n'a pas fait, et il avait cette très grande force de jeu, de jouer. Certains ne juraient que par lui, ne voulaient faire des films que pour lui. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de très particulier. Et alors, en revanche, quand il était dans la rue, il était tout à fait dans la rue aussi. Alors c'est, ouais. Ah oui, c'est-à-dire qu'il faisait pas semblant. C'était, il comptait les sous au fond de ses poches, il donnait tout son argent à ses copains. Enfin, c'était vraiment un SDF.
Alors justement, il est devenu SDF. Bon, apparemment, il y a un déterminisme social, des valises à porte qui sont lourdes, son histoire familiale. Et puis la drogue, manifestement, c'est bien ce qui le précipite dans le néant et dans le malheur.
Oui, c'est vrai que il est toxicomane. Alors il le racontait très simplement, hein, d'ailleurs, quand c'est ça. Alors j'ai fait ça, j'ai fait des cures de désintoxication, j'en ai fait, j'en ai pas fait. Donc c'est vrai que la drogue et les addictions jouent un très grand rôle. Sa mère était elle-même, il le racontait aussi, était elle-même alcoolique. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que ses enfants avaient été placés. Et lui est né avec, sa mère était alcoolisée quand elle a accouché, et lui est né avec de l'alcool dans le sang.
Cet héritage-là.
Cet héritage-là.
Ouais. On en reparle dans 3 minutes, Florence Omna, après avoir écouté Gas Compass, Don't Say It's Over.
Strong tales from a friend of mine, but I
France Inter. Affaires sensibles.
Florence Obna, concernant donc Gérald Thomassin, l'affaire qui nous intéresse, je voudrais revenir sur un ou deux points d'enquête, pas plus, mais quand même quelque chose de mystérieux. Son comportement devant la tombe de Catherine Burgot, ça c'est quand même très mystérieux et ça plaide pas, enfin, en tout cas aux yeux des enquêteurs, pour son innocence. Comment analyser ça?
Je pense que c'est un garçon qui était très hanté par la mort et qui disait aller volontiers dans les cimetières. Sa famille, son père est mort quand il était très jeune, sa mère est morte aussi. Enfin, il y avait tout cet environnement comme ça de cimetières, d'enterrements, de vie brève. Lui était très souvent là. Et je pense que Gérald Thomassin, alors ça c'est mon sentiment, c'est profondément un acteur. Et ce que je veux dire par là, c'est que il adore avoir un public. C'est-à-dire que lui, boire une canette chez lui dans le noir, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il aime, c'est être assis sur un banc public, alpaguer les gens autour. J'ose pas dire faire son numéro, mais il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de « je me mets en scène ». Et alors là, par exemple, dans ce cimetière, il adore dire « voilà, alors moi j'ai joué quelqu'un qui a tué qui a égorgé quelqu'un, alors regardez comment j'ai fait ». Donc il va mimer la scène. Il a ce côté démonstratif, ce côté dans le public, il se met en scène en fait.
Ouais.
Il a fait par exemple lui aussi plusieurs tentatives de suicide. Il va toujours faire ses tentatives à un endroit avec beaucoup de monde autour. Avec au milieu d'un groupe HLM, avec appeler les pompiers avant de sauter. Enfin, il a ce côté, un peu démonstratif d'un acteur. Ça c'est vraiment lui. C'est-à-dire qu'il est vraiment comme ça. Et c'est une chose importante à savoir à partir du moment où il a disparu. C'est-à-dire qu'autour de cette disparition, on s'est demandé qu'est-ce qu'il est devenu. Étant donné qu'il avait fait, Et donc, étant donné qu'il avait fait plusieurs tentatives de suicide, il y a eu cette hypothèse, mais il s'est suicidé. Personnellement, je ne le pense pas pour cette raison-là. C'est-à-dire que jamais Gérald Thomassin n'irait se suicider secrètement.
Secrètement, voilà.
Ça ne l'intéresserait pas. Mmh. Lui, il aurait mis sa mort en scène d'une certaine manière.
Oui, bien sûr. Alors, vous parliez de l'acteur qu'il est sur la scène et en dehors de la scène. Et justement, c'est un piège dans lequel les enquêteurs sont tombés. Mais enfin, comment peut-on faire une enquête sur un postulat pareil, c'était l'un des postulats, qu'il aurait pu effectivement tuer parce que c'est un acteur et dans ses films il tue, donc la frontière est poreuse. Mais comment on peut faire une enquête sur un fantasme pareil?
C'est
un peu dur, hein, mais bon.
Non, bien sûr. Mais c'est un fantasme qui est très partagé. C'est-à-dire qu'en effet, ce qui lui sert de casier judiciaire, c'est sa filmographie. C'est-à-dire qu'on va prendre, ah ben il a joué quelqu'un qui en tue un autre, donc il a pu le faire. Il a joué quelqu'un qui vole, donc il a pu voler. Donc il y a cette espèce de symbiose entre ce qu'il a joué comme acteur et comme rôle et ce qu'il fait dans la vie. Mais ses propres copains, au bout d'un moment, étant donné, ils se disent, au début, ils le défendent bec et ongles, non, c'est pas lui, c'est impossible, d'ailleurs, on était avec lui, enfin, bon, toute chose pour le défendre. Et au bout d'un moment, comme ils voient que les policiers ne lâchent pas, que les gendarmes ne lâchent pas, ils eux-mêmes se disent, s'ils ne lâchent pas, c'est qu'il y a bien quelque chose. Et alors, ils expliquent, non, mais en fait, on n'a pas compris tout de suite, c'est parce qu'il est acteur. Donc, et comme il est acteur, il jouait un rôle avec nous, et en fait, il joue un autre rôle dans ce bureau de poste. Donc c'est quelque chose, c'est terrible, hein, comme ça lui colle à la peau.
Ah, évidemment. Cela dit, c'est un double échec pour les enquêteurs et la justice. Rendez-vous compte, un crime non élucidé, donc la douleur des proches est encore plus forte, évidemment. Un suspect qui ne l'est plus, qui passe pas aux assises, mais qu'on veut quand même entendre au moins pour une dernière fois, c'était important, cette convocation, il disparaît. Double échec, double mystère égale double échec pour la justice.
Oui, alors
je sais pas comment les enquêteurs vous en parlaient, mais c'était quoi leur sentiment?
Alors eux, c'était assez compliqué pour eux, c'est-à-dire qu'au départ, je pense que la scène de crime n'a pas été, vous savez, maintenant. D'année en année, on a tous vu les experts, et je pense que les scènes de crime, c'est devenu quelque chose d'extrêmement préservé, en tout cas, c'est quelque chose qui est rentré dans les têtes. Là, ça se passe il y a presque 20 ans, et donc on se retrouve devant cette scène de crime où tout le monde rentre. Donc le bureau de poste est là, alors le maire dit « je vais rentrer moi aussi », les collègues rentrent pour voir si c'est bien,
tout le monde
si
pose
c'est
sa
bien
main
ce qu'on
partout,
leur a dit, tout le monde pose ses mains partout. Donc il y a cette posité de la scène de crime. On se met sur l'ordinateur, enfin c'est incroyable. Et ensuite, quand t'es nommé, les gendarmes de Lyon sont nommés pour faire l'enquête. Les éléments qu'ils ont sont, je pense, sont pas vraiment non plus les mieux préservés, disons.
Ah oui, c'est pas facile. Le jour de sa disparition, donc il avait bien, Gérald Thomassin, l'intention de se rendre à la convocation du juge. C'est ça qui est très troublant. Il disparaît. Un jour où on comprend, on est persuadé qu'il va y aller, chez le juge. Il veut y aller.
Mais il a toujours suivi. Enfin, d'ailleurs, l'interview de la personne des services sociaux de Rochefort qu'on entendait tout à l'heure dit ça. C'est quelqu'un qui s'est toujours plié à ses obligations. C'est-à-dire que, par exemple, pendant tout ce temps, il devait pointer toutes les semaines au commissariat.
Et il y allait.
Il n'a jamais manqué une fois. Donc, pour quelqu'un qui a pas de voiture, qui est dont on se demande toujours comment il va arriver au bout de la journée, eh ben il y allait. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est toujours astreint à remplir ses obligations là, etc. Et donc, lui, il y allait. Moi, je l'avais eu la veille au téléphone. Donc, il me dit, voilà, je vais à Lyon. C'était donné rendez-vous à Lyon pour au sortir de cette confrontation. Et lui me disait, enfin, on me reçoit, on va voir que c'est pas moi.
Ouais.
Alors, il y a quelque chose de très touchant et très triste. C'est qu'il était persuadé qu'il allait recevoir une indemnité pour avoir été emprisonné à tort. Et alors, comme tous les gens qui dépensent leur argent n'importe comment, il avait déjà tout dépensé, il n'avait pas touché un sou.
C'est l'argent qu'il n'avait pas, il n'aurait peut-être pas eu d'ailleurs.
Qu'il n'aurait peut-être pas eu, oui.
Bien, je bouscule un peu parce qu'on arrive à la fin. Votre
Vous m'avez
conviction...
traité de bavarde, là.
Ah, pas du tout. Non, j'en veux la pendule. Alors, votre intime conviction, votre conviction concernant Thomassin.
Alors, ce qui est sûr, c'est que la justice lui a donné un non-lieu. Donc, quant au crime, ça n'est pas lui.
D'accord, mais la disparition.
Sa disparition, je crains qu'il lui soit arrivé malheur. Au bout de 4 ans.
Crime de rôdeur, quelque chose comme ça.
Je ne sais pas.
Mauvaise rencontre.
Ouais.
On saura peut-être un jour. Florence
Obmina.
Merci infiniment. Je prends quand même un petit peu de secondes pour dire à nos auditeurs que vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Ici et ailleurs sont des chroniques de reportage ».
Une compilation de reportages.
Merci infiniment. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Thomassin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, à la technique. Aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos. Cher Mathieu Noël, j'ai pris un peu de retard, mais vous avez quelques secondes quand même.
Bien sûr Fabrice, aujourd'hui on va zoomer sur une manie qui peut virer à la pathologie, le fait de passer sa journée à scroller sur son téléphone portable, ça a même un nom, le doom scrolling.
Waouh. À tout de suite après le flash, après 16h.